Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur choc.ca. C'est le tome 36, le chapitre 395 de Mission Encre Noire qui commence. On comprenait l'anglais aussi peu l'un que l'autre, mais on se laissait envahir par la musique en fermant les yeux. J'opte pour un Deep Purple et me mets en quête du tourne-disque. Maudit qui m'a rejoint, aussi discret que le chat, me pointe du doigt une commode. « Tu connais ça ?» je lui demande en lui tendant la pochette de Deep Purple in Rock. Il secoue la tête. Je dépose le disque sur la platine et positionne l'aiguille au-dessus de la troisième piste. C'est une des plus belles choses qui ont été composées. Je ne comprends pas trop la musique. Ah, ça se peut pas. Il hausse les épaules, s'installe sur le sofa et ferme ses yeux. Vas-y, je suis prêt. Pour un garçon qui comprend pas la musique, tu sais déjà comment ça s'apprécie. Non, c'est de la logique. Si je laisse mes yeux faire, ils vont se poser partout et emmener mon cerveau. Et j'ai besoin que mon cerveau réfléchisse juste à la musique. Ah non, tu vois, là je t'arrête. Tu dois pas réfléchir à la musique. Du moins, pas sur le coup. Trouve un son qui va chercher ton cœur au plus profond de ta poitrine en passant par ton nombril. Une note au début ou une ligne de basse, un rythme. Ton père écoute pas de musique, maudit ?
Oui.
Et t'aimes ça ce qu'il écoute ? Il hausse de nouveau les épaules. Mon nombril reste tranquille en tout cas. Bon, je suis prêt là, il s'impatiente. Ok, alors la musique va te remplir comme si t'étais une éponge. Et toi, tu ressens ce que ça fait partout dans ton corps. Ça peut être dans ton ventre, au bout de tes doigts, dans ta gorge, tes cheveux, tu laisses couler. Et si des images te viennent, tu les accueilles. Si ta tête invente une histoire, tu la regardes aller. Tu seras jamais aussi libre. Il me fixe, les yeux bien rouverts. C'est clair ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « J'étais un héros » de Sophie Bienvenue, paru en 2022 aux éditions Le Cheval Doux. Et maintenant, que reste-t-il à faire lorsqu'à 62 ans, Yvan reçoit un diagnostic sans appel ? Lui et Mich, sa colocataire, sa blonde, se retrouvent démunis aux urgences d'un hôpital qu'il déteste, Mich aussi d'ailleurs, alcoolique comme lui. Il est tout seul, il l'a toujours été, sa vie aurait été ça, un amas d'affaires ratées, d'occasions perdues. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas revu Gabrielle, sa fille, ne lui a jamais donné son numéro de téléphone. De quoi pourrait-il bien parler de toute manière ? Pourtant, dans le temps, il était son héros. Son rire faisait de lui un surhomme. Heureusement, il lui reste encore son chat trouvé dans les poubelles. Il fait ce qui lui tente, lui. Il est libre. Il est maître de son destin et ça, ça lui plaît à Yvan. Sophie Bienvenue nous dévoile le portrait d'un homme blanc, d'un baby-boomer, prisonnier des rôles qu'il s'est imposé. Une génération qui se sait malhabile avec les émotions et qui préfère encore les silences ou les baisers de feu de l'ivresse pour colmater les cicatrices du passé. enfant. Quand on a le goût de pleurer devant la scie, de jouer avec les petites filles à la poupée et plus tard de vouloir porter des pantalons rouges comme Bowie, ça marque quand même son homme. Que reste-t-il de tout cela au final ? Comment enfin prendre la parole avec sa fille ? Peut-on pardonner après si longtemps ? Je reçois Sophie, bienvenue, ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Sophie. Sophie, vous êtes autrice, poète et scénariste. Votre premier roman, Et au pire on se mariera, est paru à La Mèche en 2011, qui vous a notamment valu le prix des Arcades de Bologne en 2013 et le prix du premier roman de Chambéry en 2015. En 2017, il a été porté au grand écran par Léa Paul. Cherchez Sam, votre roman suivant, est paru au Cheval Doux en 2014 et a fait partie de la liste des 100 incontournables de la littérature d'ici Radio-Canada. Il a été traduit en allemand et en anglais. Votre deuxième titre est également publié au Cheval Doux. Il s'intitule « Autour d'elle » et en septembre 2022, vous faites paraître « J'étais un héros ». Dans quelles conditions est née cette idée pour ce roman-ci ?
En fait, c'était pas vraiment une idée à la base. Ça faisait presque un an et demi que je travaillais sur un autre projet. Pour plusieurs raisons, je me sentais pas légitime d'écrire ce projet-là. Mais après un an et demi de travail acharné, je me suis un petit peu retrouvée devant rien, à part le découragement. Et donc, mon éditrice m'a dit, écoute, écris, remets-toi à écrire et puis on verra ce que ça va donner. De là, sans idée, juste quasiment de l'écriture automatique, est sorti le personnage d'Yvan. Et au fur et à mesure que je sens vraiment sans idée, là, sans savoir où je m'en allais, et au fur et à mesure de mon écriture, j'ai réalisé que Yvan ressemblait beaucoup à mon propre père et que j'avais des choses visiblement à expurger par l'écriture, on va dire.
Un extrait des Perdants magnifiques de Leonard Cohen ouvre le roman. Alors, votre narrateur en est-il un de Perdants magnifiques et à quoi ça ressemble un Perdant magnifique ?
C'est une très bonne question. Oui, je pense que j'adore Perdants magnifiques. J'adore cette phrase. Je pense que oui, mais c'est Quand on regarde quelqu'un comme ça qui n'a pas forcément réussi dans la vie et qu'on s'attarde à son histoire, quand on s'attarde à ce qui l'a amené là où il est, est-ce que tout le monde n'est pas magnifique quelque part? C'est ça le truc, c'est un petit peu je pars loin là, mais c'est comme un petit peu un petit peu de la même façon quand on regarde la vie d'Yvan qui est ratée en tout point, mais qu'on la met en lumière, ça devient quelque chose de j'ai pas envie de dire magnifique parce que c'est moi qui l'écris, mais en tout cas ça devient de la littérature en fait.
Alors vous faites le portrait d'un homme, Yvan Lacasse, d'une génération même que l'on pourrait supposer celle des baby boomers, d'une classe d'âge qui n'a pas bonne réputation. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Qu'est-ce qui s'est cassé dans la vie d'Yvan ?
Mais je pense que y a beaucoup de choses qui se sont cassées dans sa vie qu'on apprendra au fil de la lecture et même des choses, j'imagine, que j'ai pas pris le temps de raconter. Qui l'a pas pris le temps de raconter dans les pages ? Mais notamment, je pense que cette génération a dû rentrer dans des cases et même celle d'avant, la génération d'avant, a dû rentrer dans des cases dans lesquelles il fitait pas forcément en fait, et que je pense que pour les personnes les plus sensibles, les personnes les plus anxieuses, ça peut créer quelque chose, un grand mal-être et des grandes attentes pour quelqu'un qui a pas forcément les épaules pour les supporter.
Oui, ce fameux mot du titre, être un héros. Cette génération qui a connu les années 70, Baba Cool, les 30 glorieuses, le confort, l'avènement de la société de loisirs, la révolution tranquille, les années psychédéliques. Effectivement, être un héros, c'est pas facile. Est-ce que cela veut dire que cela n'existe plus vraiment, les héros aujourd'hui, ou plutôt est-ce votre manière d'aborder justement un homme qui a loupé sa révolution, qui est une victime de ce paternalisme ou cette masculinité à tout prix qu'il faut atteindre depuis, je dirais, ces générations-là?
Bah après, je ferai quand même un petit peu attention avec le terme de victime, parce que Yvan, il en a fait aussi des victimes. Donc c'est sûr que oui, effectivement, il a souffert de ça. Oui, effectivement, il y a une partie de ça. Il y a peut-être aussi une partie de voir, que, pour moi, de montrer que tout n'est pas très manichéen, hein, comme on a tendance à le voir en ce moment. Il y a peut-être un petit peu de nuances à apporter. Et apporter des nuances, ça ne veut pas forcément dire dédouaner non plus le mal que ces personnes ont fait.
Page numéro 4, vous plantez le décor. Votre narrateur est en phase terminale. Il y a une femme à ses côtés, Michel Lamoureux, qui l'aime détester. Elle l'accompagne pour les seules raisons, peut-être, de s'accrocher à lui une dernière fois. Pourtant, lui, s'il s'accroche à quelque chose, c'est surtout à son chat et Gabrielle, sa fille. Comment avez-vous apprécié de construire un tel personnage qu'on découvre finalement tel un paria, un vieil alcoolique détestable, aigri, l'image quasiment héroïque du prolétarien en rupture de bande société? Comment avez-vous supporté, je dirais, de construire un tel personnage?
Je me suis inspirée de ma vie avec mon père, dans le sens que c'est ça. Mais quand je dis ça, mon père n'est pas Yvan et je ne suis pas Gabriel. Mais disons que j'ai réalisé au fil de l'écriture que ce que j'avais besoin de faire, ou ce que j'avais envie de faire, c'était de montrer le pire qui pourrait arriver dans notre situation et le meilleur qui pourrait arriver dans notre situation. Donc c'est sûr que j'ai pris les traits toxiques et les traits malades de mon père, et j'en ai fait, et je les ai grossis. Mais pour moi, ça m'a fait un bien fou, en fait. Ça a été très, très cathartique comme écriture je parle juste vraiment à titre personnel. Ça m'a fait mal, mais énormément de bien au final.
Alors, Yvan déclare, je l'ai fabriqué moi-même, le gars qui sanglote, le gars frigorifié, bukowskien. Ce n'est pas si certain que cela. L'image du grand-père maternel aimant et taiseux le hante durant le récit. Un père absent, violent, alcoolique sans doute, qui lui montre enfin un signe d'intérêt quand il le surprend à braver l'interdit de la première gorgée d'alcool. Alors, sans en faire une victime forcément, ce qu'on disait tout à l'heure, mais Yvan est-il le produit de son milieu de vie?
Oui, ben on l'est tous aussi, hein. On est tous le produit du milieu de vie. Avec, on peut jamais savoir qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est. Mais c'est sûr que tôt dans l'enfance, même bon, en tout cas avant la naissance et très 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 tôt quand on est bébé, tout ce qu'on vit, toutes nos expériences nous marquent. Et c'est ça, c'est très difficile de se sortir de traumatismes qui, de l'extérieur, n'apparaissent pas forcément comme des traumatismes, mais qui le sont pour nous, qui l'a été pour Yvan. Et quand je dis traumatisme, c'est faut bien comprendre que c'est ça, qu'au moment où Yvan prend sa première gorgée et que cette attention de son père qu'il a toujours désiré arrive, c'est comme une soif, et c'est drôle que je dise soif parce qu'on parle d'alcool, mais je veux dire une soif de reconnaissance et d'amour qu'elle potentiel d'éventuellement se soigner, en fait. Et donc je pense que ça a été un gros tournant dans sa vie, ouais.
Ah, effectivement, il faut avouer, il ne ménage pas son entourage. Toutes les femmes de sa vie ont souffert le martyre, à commencer par sa femme, Jeannine, qui l'a quittée, Nathalie, Yara, Gabrielle, bien évidemment, ou Mich, qui reste ses dernières victimes. D'ailleurs, il entraîne Mich vers l'alcoolisme. Est-ce que Yvan serait la version contemporaine de l'ogre, le dévoreur d'émotions? Pourquoi lui faut-il tout détruire dès qu'on lui montre de l'intérêt, à votre avis?
Parce que qui se déteste. Il n'est pas capable de vivre avec lui-même. Et son autodestruction n'est pas suffisante. Donc, il détruit tous les gens qui l'aiment autour de lui parce qu'il ne se sent pas digne d'amour.
Mmh. Mich a cette parole, enfin non, Yvan a cette parole. Si jamais Mich a eu un effet sur ma vie, c'est qu'en la haïssant beaucoup trop, je suis parvenu à moi me détester. Mich est en quelque sorte le miroir dans lequel il s'empêche de se regarder lui-même.
Oui, 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 tout à fait. Ils ont ce rapport-là, tous les deux. Mais Yvan est pas forcément très honnête parce qu'il y a, deux versions hein, d'Yvan dans le roman. Il y a la version où il décide d'arrêter de boire. Et la version où il continue. Et avec mon éditrice, pendant qu'on travaillait, on appelait la version noire et la version blanche. Et dans la version noire, il est moins honnête, il est moins lucide, il a beaucoup plus de mal à se regarder en face. Et c'est ça, c'est que il dit ça, mais Mich, il l'aime au fond, tu sais, il a besoin d'elle. Pas uniquement pour ça, et il l'aime mal, et je suis pas en train de cautionner ce qu'il lui fait, mais c'est ça, il a aussi, il l'aime aussi, et il a aussi besoin d'elle pour d'autres raisons que celles qu'il dit.
Alors, il y a un autre personnage secondaire qui figure sur cette magnifique couverture de chez Cheval Doux, c'est le chat. Le meilleur ami de l'homme, dit-on,
oui.
Car il est libre et maître de son destin. Yvan se fait croire qu'il a droit de vie et de mort sur lui. Mais rien n'est plus faux, finalement, concernant le chat. Ce qu'il aime particulièrement du chat, Yvan, ce ne serait pas sa dépendance à lui-même, le fameux sauveur de poubelle ?
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment super intéressant la façon dont vous formulez. Mais c'est vrai, en fait, c'est ce qu'il aime chez lui, c'est l'illusion de liberté. C'est chez Yvan, ce chat, c'est une projection de Gabriel, mais c'est aussi une projection de lui-même. C'est quelqu'un qui a le potentiel de liberté, le chat, qui pourrait, mais qui en fait est en prison. C'est pas vrai que le chat est libre, en fait. Les animaux de compagnie sont jamais 100% libres, même un chat. Donc il s'identifie forcément lui aussi à cet animal.
Ce qui est au cœur du roman, effectivement, c'est la relation avec sa fille dont qu'il a perdu de vue depuis 20 ans. Quelle est sa réaction quand il apprend 20 ans après que sa fille est maman?
Oui, bah en fait, c'est ça. C'est qu'il apprend qu'il pense qu'elle est maman, mais je pense que c'est un grand vide. J'imagine que il tombe dans un trou, pas forcément un gouffre, mais ça doit être une perte d'équilibre totale. C'est ça, comme un saut en parachute où tu te dis j'ai manqué ça. Et c'est un moment intéressant parce que il aurait, dans une autre version, s'il avait pas décidé de changer, il aurait forcément dû à ce moment-là pour supporter cette émotion de je suis grand-père, Gabriel et maman, j'ai manqué tout ça, c'est énorme pour lui d'avoir manqué tout ça. Il s'en veut dans les deux versions d'avoir manqué 18 ans de la vie de sa fille, de l'avoir abandonnée. Et donc d'avoir cet enfant qui est sa descendance, qui voit comme sa descendance, c'est vraiment un moment où il choisit de retomber ou pas. Mmh. Donc il choisit de voir comme un espoir au lieu de le voir comme une autre raison de s'auto-flageller.
Mais ce qui est énorme et brillant aussi dans le roman, c'est qu'en attendant, Gabriel s'est trouvé un autre héros, Marcus. Marcus qui pourrait apparaître comme le modèle parfait du mâle dominant a priori, je dis bien a priori, puisque joueur de hockey vedette, défenseur chez les Pingouins et les Ducks, qui a fini sa carrière au Canadien de Montréal en 2015. C'est tout un défi pour Yvan finalement de se confronter à un vrai héros, n'est-ce pas ?
Oui, mais je suis pas sûre que lui le voit comme ça, en fait. il est à aucun moment Yvan est en compétition avec Marcus. Et c'est super intéressant, je l'ai jamais vu comme ça, mais je pense que ce que Yvan ressent pour Marcus, c'est de la reconnaissance. Peut-être que, alors ça, ce serait intéressant de voir si Yvan, dans la version noire, donc dans la version où il n'a pas arrêté de boire, rencontre Marcus, peut-être qu'il aurait eu justement ce réflexe de se mesurer à lui et de se comparer, mais ayant décidé de cheminer et de changer dans la version qui est publiée, c'est vraiment juste de la reconnaissance qu'il a pour lui et de Marcus d'avoir pris le relais et de s'être occupé de sa fille quand lui ne pouvait pas s'en occuper. Mais c'est un petit peu la même reconnaissance qu'il a aussi quelque part pour Janine quand il réalise que quand Gabriel est parti vivre chez sa mère. Elle a pris le relais en fait et que lui n'aurait pas pu le faire. Donc il a quand même quelque part cette lucidité de la reconnaissance.
Mmh. Alors est-ce que ce livre peut permettre la naissance du père au final? Je dirais même, est-ce que ce livre permet aussi la naissance d'un grand-père, une naissance d'un père ou d'un grand-père, je dirais, sous péridural en quelque sorte?
Sous péridural. Ouais. Bah oui, c'est ça en fait. C'est probablement. J'aurais été tentée de vous dire la renaissance d'un père, mais même dans ses meilleures années, au début de la vie de Gabriel, on pourrait se questionner s'il a vraiment été un père, même s'il avait l'air très présent. La naissance d'un grand-père, oui, ça c'est certain, ça c'est. Mais sans parler forcément des liens familiaux, parce que concrètement, Maudie et Yvan ne sont pas reliés. C'est aussi la transmission, la reconnaissance de, et pas la même reconnaissance dont je parlais tantôt, mais se reconnaître dans quelqu'un et vouloir transmettre ces choses et voir aussi que, ben c'est ça. C'est, pour moi, c'est surtout la transmission plus que les qui transcende les liens familiaux en fait.
Alors évidemment, Yvan va rencontrer Maudie, son petit-fils, et il y a un échange génial, un échange drôle, une scène magnifique à lire absolument dans le livre. C'est lorsque Yvan s'improvise professeur, lorsque il va lui présenter ses goûts musicaux, sa collection de musique qu'il retrouve dans la demeure de sa fille. Comment sentir la musique en écoutant Deep Purple? Est-ce que vous l'avez vécu cette scène-là? Elle est parfaite. Votre père, en tout cas le père dans le livre, fait découvrir à Moody Life on Mars, Hunky Dory, comme ça. Là, c'est fantastique. Est-ce que vous l'avez vécu cette scène-là?
Oui, j'ai vécu. Bah, en fait, j'ai grandi avec David Bowie, avec Deep Purple, avec Jimi Hendrix. Vraiment, c'est eux et mon père donc qui ont forgé mes goûts musicaux, puis ma personnalité quand même. Donc j'ai en quelque sorte vécu cet éveil à la musique, mais ça s'est fait moins... ça a été une entrée moins fracassante qu'avec Maudie, parce que Maudie, à son âge, il s'intéresse pas à la musique, il a jamais vraiment écouté ce genre de musique, du moins, il s'est jamais posé la question s'il allait aimer ça. C'est un petit gars un petit peu spécial. Mmh. Et alors que moi, j'ai grandi avec, je suis née avec, c'est quelque chose qui était dans mon biberon. Mais c'est sûr qu'on passait des heures à écouter des disques, et puis mon père me remettait le solo de guitare en me disant écoute, puis là, il avait prévu que, il espérait que je serais guitar hero quand je serais grande. Donc c'est ça, on a vécu des beaux moments comme ça, celui-ci en particulier non, mais j'ai pu transposer quand même. J'ai beaucoup de ressemblances quand même quelque part avec Maudie. Donc ce que j'ai fait pour cette scène-là, c'est que je me suis imaginée ne pas avoir jamais écouté vraiment de ce genre de musique-là et ne pas m'y être intéressée, puis que quelqu'un arrive et et arrive avec tout ce contenu-là, avec tout cette charge-là. C'est à partir de mon expérience, mon vécu, que je l'ai imaginé.
Alors, Mich découvre le journal d'Ivan au détour d'un rangement et elle lit cette phrase terrible qui émerge et qui finit par, je cite, « Il faut que je parte avant de la haïr, de l'étouffer dans son sommeil pour supprimer en elle ce que je déteste chez moi. » Il lui rétorque, pour s'excuser, que c'est un personnage. C'est juste un personnage. Mais entre vous et moi, ce n'est pas juste un livre. On existe un peu dans ce qu'on écrit, n'est-ce pas ? Puisque vous écrivez d'ailleurs en remerciement dans les dernières pages « Merci papa d'être redevenu mon papa ». C'est tout un livre que vous avez écrit ici.
Oui, c'est sûr que à l'écriture, et d'ailleurs Ivan, il est... Vous pardonnerez mon langage, mais il est plein de marbre hein, quand il dit ça, c'est absolument faux, c'est pas vrai, il ment. Mais c'est ça, donc c'est vraiment ça qu'il ressent quand il l'écrit. Et de la même façon, moi, c'était vraiment très très... C'est la première fois que je réalise pendant l'écriture à quel point un roman est personnel pour en tout cas proche de mon vécu. Après, c'est sûr que à la réécriture, le personnage devient vraiment un personnage. On s'éloigne, on le retravaille, et puis on s'éloigne de mon père à moi, et pour vraiment devenir Ivan, et pour qu'il prenne sa vraie place et son vrai rôle de personnage.
Pour finir,
pas une autofiction que j'ai, ouais.
Pour finir, est-ce que toutes les bonnes musiques font mal comme dans les histoires d'amour, c'est ce que vous écrivez, parce que cela s'écoute fort avec le cœur peut-être. Alors est-ce que votre livre se lit avec le cœur ?
C'est vous qui devez me le dire ça. Moi je l'ai pas.
L'avez-vous écrit avec le cœur ?
Oui, ça c'est certain. C'est pas juste avec le cœur, c'est avec les tripes. Ça part de mon écriture. Elle part toujours de plus bas. Elle part du ventre. Sinon c'est pas bon. J'arrive pas à écrire de la tête. J'arrive pas même pas à écrire du cœur. Il faut que ça vienne vraiment viscéralement de quelque chose. Et ce roman, je savais pas qu'il avait besoin de sortir. Je savais pas que je l'ai vraiment écrit par hasard quasiment. Je l'ai fini avant la pandémie. Je pense que le premier jet, je l'ai fini en mars 2019, je pense, quelque chose autour de ça. Et j'avais aucune idée que j'avais besoin d'écrire ça, à quel point ça a pu m'aider. Et j'ai fait connaissance avec des personnages qui aujourd'hui ont leur vie. J'espère, en fait, j'espère que ça se lit avec le cœur et avec les tripes, puis que ça peut aller penser des blessures chez, pas forcément sur quelqu'un qui a vécu la vie d'Ivan, qui a vécu celle de Gabriel, mais la force de la littérature, c'est aussi de pouvoir lire, de pouvoir vivre une expérience qui est extérieure à la nôtre et de se reconnaître quand même dans cette expérience et d'apprendre quelque chose, que ça pense une blessure. Donc oui, moi c'est ce que j'essaye de faire avec mes livres en tout cas.
Voilà, même s'il n'en a plus pour très longtemps, Ivan, le père ici, devient peut-être un héros malgré lui d'un livre où la noirceur annoncée éclaire le chemin d'une improbable rédemption. Ce livre se lit sans doute avec le cœur bien accroché. J'étais un héros de Sophie Bienvenue, paru en 2022 aux éditions Le Cheval Doux. Merci Sophie d'être venue à Mission Encre Noire. Quand on est la maîtresse d'un homme marié, on évite de penser que jamais, pas une fois, on est la seule fille qu'il embrasse dans une journée. Quand il m'embrasse, c'est qu'il embrasse deux femmes le même jour, sa reine et sa pute. Les maîtresses devraient se garder de penser à ce genre de choses, mais des fois, ça s'immisce dans mes pensées par les craques du plafond qu'il regarde plus que moi. Je me suis ingéré dans un mariage pour ensuite imputer au roi ma douleur d'être la seconde femme de sa vie. Je l'invite parfois dans ma chambre pour lui crier au visage que je le déteste. Nos étreintes, hardies et ludiques, prennent alors des allures de mélodrame que j'admets provoquer à la fois délibérément et contre mon gré. Parce que ce que j'aime encore plus que nos batifolages, ce sont les retours du roi. Cet amuissement du récit que nous nous écrivons et nos réconciliations renouvelées. C'est aussi, je crois, pour que nous demeurions un couple incertain et écorché, que je provoque sans cesse une fin qui n'en sera jamais une. Je nous veux au bord du précipice, parce qu'il me semble que tu m'y aimes un peu plus. Ceci est un extrait de Daddy Issues par Elisabeth Lemay, paru en 2022 aux éditions Boréal. Cela fait 4 ans que ça dure. Il entre, tire les rideaux, la rejoint dans le lit souverain, une baise de 30 minutes, une autre demi-heure à discuter. Il lui offre des livres, puis il s'enfuit vers sa famille, vers sa reine qui l'attend. Rencontrée sur le boulevard Saint-Laurent, la narratrice devient la maîtresse d'un homme marié. Elle devient sa deuxième femme, un amour clandestin une fois par semaine. Il ne mesure pas sa chance, les hommes de son âge traînent chez les prostituées d'habitude. La narratrice ici est amoureuse. Elle s'abîme dans un rêve auquel elle ne croit pas elle-même, bien entendu. C'est un homme d'une autre génération, un silencieux qui ne dit jamais « je t'aime ». Histoire banal, classique, me direz-vous. Sauf qu'ici, la langue se fait politique parfois. Sauf qu'ici, enfin, la parole lui est laissée à elle, la maîtresse diabolique, la sorcière subversive, celle qu'on abandonne. Si ce roman traite surtout des relations sulfureuses entre deux amants, la transgression sociale de l'expérience habite chaque ligne de ce livre. Si le sexe est aussi bon, comme dit l'adage, c'est meilleur parce que c'est volé. Alors, mieux vaut opter pour cet amour bancal, choisir l'idée d'un pays à venir, plutôt que sa réalisation future dans une révolution devenue improbable. J'accueille ce soir, à Mission Encre Noire, Elisabeth Lemay. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
Vous êtes née à Montréal en 1990, vous avez étudié les littératures de langue française à l'Université de Montréal. Après un passage en politique comme attaché de presse, vous travaillez maintenant en relations publiques. Daddy Issues est votre premier roman. La citation de Jean-Paul Dubois, qui est tirée d'Une vie française au début du livre, indique, je cite, « Les choses sont ainsi faites qu'on n'aime jamais vraiment que les salopards ». Vous y croyez vraiment à ce cliché ?
Non, je crois pas, mais ça fonctionne avec cette idée que la narratrice se fait des amours clandestins là, qui semblent la maintenir en vie. En fait, c'est dans ces moments-là qu'elle se sent le plus vivante parce qu'elle se sent mourir à la fois. Donc, je considère que les dédicaces, tout ce qui entoure un livre fait aussi partie de l'œuvre littéraire. Là. Donc, la dédicace aussi est adressée au roi. Tout ce qui entoure un œuvre littéraire, pour moi, fait partie d'une construction artistique. Mais non, c'est pas ma voix là, qu'on entend la voix de la narratrice. J'ai vraiment voulu rentrer dans ce personnage-là puis donner une voix à cette espèce de sorcière subversive là, dont vous parlez, puis lui donner une voix là, parce que c'est un personnage même si on croise souvent qui a selon moi jamais la parole.
Mm-hmm. Alors que se cache-t-il derrière votre titre? Que se cache-t-il derrière Daddy Issues, derrière cet anglicisme? D'ailleurs, comment pourrait-on le traduire en français ce titre?
J'ai essayé de le traduire, j'ai pas trouvé de termes justes qui fonctionnaient, mais pour moi le titre en anglais Daddy Issues fonctionnait bien. D'abord parce que c'est un cliché qu'on entend souvent, Daddy Issues. À nos éans qui s'allient avec l'histoire du livre. C'est un peu un espèce de cliché. C'est l'histoire qu'on a croisée mille fois. C'est l'histoire de la maîtresse d'une vingtaine d'années qui sort avec un homme double de son âge, éperdument amoureuse de lui. Bon, lui, on se sent distant, indisponible. Donc, la des choses revient un peu à cette idée-là d'un amour déséquilibré pour une femme vers un homme plus vieux. Donc, c'est un thème qu'on entend énormément, qui veut tellement plus rien dire. Je reviens un peu dans le livre. C'est aussi un livre essai qui revient aussi. Bon, on entend la narratrice réfléchir sur sa sur sa vie, sur son histoire, sur son fait. Puis elle réfléchit aussi au terme d'aller chose, puisque ce que ça veut dire pour elle. Puis donc puis je trouvais que ça faisait du sens aussi qu'il soit en anglais, dans le sens que c'est aussi beaucoup un livre sur qui revient sur l'histoire politique, qui revient un peu sur l'histoire politique et sur le peuple de la narratrice à réfléchir à son destin. Puis c'est une vision un peu péjorative de l'avènement de son pays, de son peuple en pays. Donc, je trouvais que ça fonctionnait pour parler de ce double échec là, collectif et intime du roman.
Alors, même si ce schéma amoureux peut paraître classique, pourquoi avoir choisi un sujet, j'ai envie de dire, aussi miné de nos jours, que l'on pourrait titrer finalement « À l'ombre des jeunes filles en pleurs » et la référence littéraire n'est pas choisie par hasard, bien évidemment, à savoir la relation adultère entre une jeune femme et un homme marié, père de famille, homme de lettres beaucoup plus âgé qu'elle. Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers ce sujet-là en particulier pour un premier roman?
Je trouvais ça intéressant de revenir sur ce cliché-là qu'on pense souvent. D'abord parce que en lisant Michel Houellebecq, en lisant Frédéric Beigbeder, en lisant des auteurs souvent masculins, c'est des personnages qu'on croise énormément que je trouvais déshumanisés, sont soit ridiculisés ces femmes-là dans une position, dans une relation de pouvoir là, qu'elles n'arrivent pas à avoir, sont ridiculisées ou vu au contraire en espèce de sorcière vraiment subversive, dont j'ai trouvé jamais complètement réel. Donc, je trouvais ça intéressant d'abord de leur donner la parole, mais c'est aussi parce que je me questionnais dans un air où on parle d'égalité, on est beaucoup il y a eu un air de féminisme super intéressant ces dernières années. Je trouvais ça intéressant de revenir aux relations intimes puis de réfléchir à ce que ça veut dire dans nos relations, parce que même si la société, pour moi, évolue, même si ça avance dans la collectivité, cette espèce d'égalité-là, il y a encore cette espèce de romantisme qui existe dans les relations de couple où les femmes haïtiennes recherchent des relations parfois où elles n'ont pas le pouvoir, où les hommes aussi aiment avoir ce rapport-là avec des jeunes filles je pense qu'elle cite Beigbeder d'abord. D'ailleurs, là, dans l'espèce de relation où l'homme fabrique l'intellect de sa douce. Donc, c'est aussi beaucoup de revenir sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans l'intime. Je pense pas que l'égalité est encore arrivée à son plein potentiel, là, on veut. Donc, je trouve ça intéressant de réfléchir à une relation de couple qui est encore romantisée dans cette espèce de cliché-là qu'on croise, mais qui existe bel et bien. Là.
Ouais, la fameuse citation de Beigbeder, je l'ai, c'est « Chez certaines jeunes femmes, l'amour consiste tout simplement à trouver l'homme capable de remplacer papa. Les jeunes garçons n'admirent pas assez les jeunes filles. » C'est assez paternaliste comme point de vue. Il manque peut-être à la phrase l'idée de revenu, de pouvoir, et surtout de pouvoir se faire jeter comme une vieille chaussette. Hein. C'est quand même une vision.
Exactement.
C'est une vision.
Parce que Beigbeder m'avait un peu fâché dans la plupart de ses livres, mais c'est aussi, il en fait beaucoup un ode à ces relations-là. Je pense qu'il avait fait un livre sur Anna Salinger, puis il revenait beaucoup sur ces relations-là de pouvoir en leur faisant une espèce de si on veut, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, alors que fondamentalement, on parle d'une relation de pouvoir patriarcale entre un homme âgé puis des jeunes femmes qui s'amouragent d'hommes plus vieux. En raison d'une carence paternelle, fait qu'on puisse rendre ça normal ou parfois risible, l'idée qu'une carence paternelle soit tellement normale dans une société qui existe un nom, qui existe le mot daddy issues, on parle rarement, en tout cas, à mon sens, de mommy issues. D'abord que ça existe, puis ensuite que les hommes c'est une espèce de couple hyper, hyper normalisé où les femmes vont trouver cette carence amoureuse-là chez un conjoint plus élevé qui, à Essien, les formes, les utilise, puis ensuite les jette comme des chaussures. Je trouve ça particulier qu'on en fasse un espèce de cliché dérisoire. Donc, c'est ça. J'ai voulu me le réapproprier puis en faire quelque chose d'un peu moins risible, puis finalement d'entendre parler celle qui passe ses journées à attendre des hommes.
Alors, ce qui accroche dès le début du livre, c'est cette première phrase qui arrive comme un uppercut. Je cite « Je suis issu d'un peuple qui aime sa langue morte comme une maîtresse aime son amant, de ce même amour pénible et violent qu'on ressent pour une passion évanescente ou pour toute chose, autre chose qui n'est pas à nous. L'amour, le vrai, n'existe que dans la fragilité. » Comment faites-vous le parallèle entre l'amour d'une langue et la passion amoureuse?
ça a été intéressant, en fait, parce que moi, je partais de... Ce qui m'a inspiré ce livre-là, à la base, c'est d'abord le livre « Prochain épisode » de Hubert Racquin, qui est un espèce de, d'entrelacement du, de l'intime puis du collectif. Bon, lui, c'est au sein d'une histoire d'espionnage. Moi, j'ai voulu rapatrier ça dans une histoire de relations intimes. Donc, l'idée, c'est de parler, oui, d'une histoire de couple, d'une histoire de déséquilibre amoureux, mais aussi d'avoir un... de réfléchir sur notre peuple, son échec, le collectif révolutionnaire. Là, donc, j'essaie de revenir un peu sur... C'est aussi un hommage à Hubert Racquin que j'ai voulu faire, puis un peu en faire un pastiche de son roman, mais transposé dans une histoire amoureuse. Puis oui, donc la femme, la jeune maîtresse, réfléchit souvent à l'avenir collectif de son peuple. Elle réfléchit à sa langue puis à son histoire collective en termes d'histoire perdue d'avance, ou même que sa relation amoureuse. Donc, c'est un peu ça l'idée, quoi.
Mmh. 4 ans d'une relation adultère qui a ses routines, au final, comme dans un couple, c'est tout le paradoxe. Et cette relation qui se passe effectivement au lit, qui implique obligatoirement une relation sexuelle, bon, rien de bien nouveau là non plus, si ce n'est l'échange de livres que le roi, c'est le terme qui est employé dans le livre, offre à sa pute, parce que c'est aussi le terme qui est employé dans le livre. Ce lit devient votre pays en commun et ses lectures le deviennent également. Et là s'ensuit l'énumération de beaucoup d'auteurs et d'autrices, Carrère, Echenoz, Dubois, mais également Sagan, Ernaud, Cusset, Plate de Beauvoir. Alors que représentent ces auteurs et ces autrices dans cette relation? J'ai même envie de préciser, que représentent ces références d'écrivains et d'écrivaines pour vous?
Mais en fait, tout le défi d'écrire un livre qui est aussi, comme je parlais de Barricade tantôt, qui est aussi un échec d'écriture littéraire. Donc, c'est comme si elle essaie d'écrire son grand roman de littérature, mais en fait, son histoire tourne en rond. Donc, c'est un peu le défi d'écrire un roman inachevé, circulaire, donc une histoire qui chemine pas, mais tout en faisant cheminer la pensée de l'auteur. Donc, elle reste dans sa chambre, elle est très... Elle était très immobile alors que son roi se passe autour d'elle dans la ville. Donc, l'idée, c'était aussi d'utiliser la littérature pour la faire réfléchir, pour la faire évoluer à un certain point. Donc, c'était vraiment l'utilité de la littérature là, de pouvoir avoir un roman qui, même étant circulaire ou inachevé, il y a quand même une réflexion qui est faite, qui chemine autour d'elle. C'était aussi, à mon sens, un hommage à la littérature. Donc, je voulais en faire une maîtresse humanisée, une maîtresse réelle, quelqu'un qui existe pour vrai, qui n'est pas risible. Donc, je la voulais cultiver d'abord, tu sais, la sortir un peu du cliché de la com. Là. Fait que c'est un peu l'idée d'en faire une espèce de femme intellectuelle qui n'est pas prise dans une relation comme ça de par une carence intellectuelle quelconque. Donc, c'est une femme cultivée qui aime lire Duras, qui aime lire de Beauvoir. Donc, elle est consciente aussi. Il y a aussi une réflexion féministe sur sa relation, sur ce que ça veut dire être dans ce cercle-là. Donc, elle réfléchit beaucoup aux relations de pouvoir. On la sent rejeter un peu le cadre traditionnel, normatif des relations. Être mariée à quelqu'un avec des enfants, tout ça. Donc, elle réfléchit un peu à son destin de femme. Qu'est-ce que ça veut dire être égalitaire? Donc, elle se sent dans le rôle le plus valorisant pour une femme. Donc, c'est ça, c'est une réflexion sur l'intime, sur comment exister comme femme féministe qui souhaite être égalitaire, quel rôle prendre. C'est comme si les seules options qui se portaient à elle étaient un peu coincées dans un cercle où les seules options qui se portaient à elle, ce serait d'être la femme cocue ou la maîtresse sorcière subversive. Donc, c'est une réflexion aussi beaucoup sur le destin de femmes qui cherchent un peu... Dans ces relations intimes.
Mmh. Justement, est-ce un moyen d'assumer cette relation adultère cachée? Pourquoi ce besoin de vivre caché, de le justifier en n'affichant pas cet amour au grand jour? Le lit devient un territoire exclusif, vous dites, un pays libre et perdu, sans histoire et sans avenir, à peine un passé. Et vous ajoutez, c'est toujours ainsi, les petits pays ne font pas que se regarder eux-mêmes et oublient le monde entier tellement ils veulent exister. C'est son seul moyen pour elle d'exister en tant que féministe que de vivre cet amour caché?
C'est un peu le seul lieu où elle peut exister d'abord avec son roi. Donc, elle ne peut pas le rencontrer ailleurs que dans sa chambre. Donc, pour elle, ça devient son
son pays libre, le seul endroit où il peut la rencontrer, où elle peut être son égale. D'ailleurs, les relations sexuelles, c'est un peu le seul moment où on la sent devenir égale à cet homme-là, qui est dans une position de pouvoir absolu. Et dans son attente totale, c'est lui qui dirige, qui tient les rênes de cette relation-là, sauf pendant l'acte sexuel, où là, elle se sent uniquement son égale. Donc, sa chambre représente un peu leur pays à tous les deux. Puis c'était aussi l'occasion d'avoir une réflexion collective sur la place qu'on occupe comme collectivité. Mais c'est ça, pour elle, la chambre, en fait, c'est l'unique lieu où le roi peut la rencontrer. Donc, elle en fait un peu sa terre promise. Là. Donc, c'est un peu lui vient la visiter au moment où il souhaite. Donc, elle vraiment. Mais on la voit aussi à la piscine publique, d'ailleurs. Là, c'est le seul lieu où elle est aussi. Mais en fait, le seul lieu où elle existe vraiment, c'est dans la littérature. C'est là où elle l'attend, dans les livres qu'il lui prête. Donc, elle a continué d'exister via les univers littéraires qu'il lui offre. Donc, la chambre, c'est un peu un prétexte, mais en fait, l'unique lieu où elle existe réellement, c'est dans les univers littéraires qu'il lui donne, parce que sa vie semble être complètement à la merci de cette personne-là. Mmh.
Mais se nourrit-elle pas simplement d'illusions? Parce que vous dites, n'est-ce pas cela que nous faisons tous en amour, nourrir une image idéalisée de nous-mêmes? Plus loin, vous ajoutez, et je me demande si au bout du compte, nous n'aimons pas la seule personne qui nous voit comme nous aimerions nous voir nous-mêmes. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est comme ça qu'il faut comprendre un peu le message de votre narratrice?
Je la sens un peu à mi-chemin entre l'illusion et la lucidité, parce que quand même, ce qui est intéressant avec elle, c'est que à un passage, elle va se sentir complètement lucide face à sa relation, puis à l'impossibilité d'arriver à un dénouement heureux avec son roi. De l'autre, elle tombe dans une illusion totale. C'est un peu le propre d'une relation toxique en soi. Là. C'est l'idée que chaque jour est une guerre à recommencer. La même situation, une journée la rend parfaitement heureuse, le lendemain, elle donne envie de mourir. Donc, c'est un peu l'espèce de drogue que lui offre cette relation hyper toxique-là avec cet homme-là. Donc, c'est toute la relation de pouvoir là, qui s'exerce dans ses hauts et ses bas, mais je voulais à Estian une narration hyper lucide, consciente de son destin, même si parfois, on la perd là-dedans, là, dans cette relation-là. Mais c'est nécessaire pour moi pour avoir une réflexion sur ce que c'est une relation extra-conjugale, sur comment elle entrevoyait cette relation-là, puis sur son futur. Elle comprend, je pense, même si elle est en quête d'un dénouement heureux avec son roi, au fond d'elle, elle sait que c'est pas possible, et c'est un peu la raison pour laquelle cette relation-là est elle s'en nourrit, puis elle est aussi satisfaisante pour elle. C'est l'impossibilité de la relation qui lui donne toute sa beauté, sa poésie en soi. Donc, on la sent souvent réfléchir. Elle se cache à elle-même que ça va nulle part, mais c'est aussi, parfois, elle l'avoue, c'est aussi les seules raisons pour lesquelles cette relation-là existe. C'est qu'elle se sent... Il y a une nostalgie du moment parce qu'elle sait qu'il ne va pas durer. Donc, c'est un peu le propre des genres des relations où on sait qu'il n'y a aucun dénouement heureux. C'était l'exercice.
Mais autant elle est consciente de son destin, considérez-vous que votre personnage soit en maîtrise de son destin? Vous en parliez tout à l'heure de prochain épisode du Berrakin, on va dire renoncer à ses idéaux par goût du confort, parce que l'on n'est pas de taille à s'engager dans une révolution. Est-ce que ça ressemble bien à votre personnage, puisque vous écrivez même « Rien n'a changé depuis Aquin
». Oui, j'en voulais en équilibre entre la recherche du confort et justement ce rejet-là d'une espèce de fin là, heureuse puis satisfaisante. Donc, j'ai pas la réponse autant que le personnage l'a pas à Esther. Donc, il est un peu en reste. On la sent au long du roman en équilibre à la recherche de sa quête. Donc, je pense qu'elle-même n'a pas cette réponse-là. Elle est un peu à la recherche d'un entre-deux. Puis, elle est un peu en équilibre entre la quête d'une fin heureuse, puis l'espèce de chaos de relation toxique dans laquelle elle est. Puis c'est un peu le mi-chemin. Le personnage du Berrakin est un peu différent là-dedans, là. Mais celui-là, il était vraiment, je le voulais en équilibre dans ce désir-là, à la fois d'aller chercher une relation heureuse, confortable, puis autant de rester dans cette espèce d'entre-deux-là où elle se sent vivre.
Vous citez également François Sagan, « J'ai choisi les hommes comme Sagan a choisi la vitesse », comme « rejoindre le bonheur de vivre vite avec le confus espoir de mourir dedans ». Y a-t-il forcément l'idée de la fin possible ou souhaitable dans une histoire d'amour? Est-ce que c'est ce qui la rend excitante aux yeux de votre narratrice? En gros, ce qui dure et ce qu'on appelle la famille, ça se rapproche plutôt de l'ennui pour elle.
Qu'elle va rechercher, en fait, dans son roi, je pense qu'elle l'appelle souvent son bourreau. Ce qu'elle va chercher dans cette relation-là, c'est son Andromaque, c'est ce qui va la tuer. Donc, elle est un peu à la recherche d'une drogue malsaine pour elle. Donc, autant elle aime son roi, autant la raison pour laquelle elle aime, c'est l'autodestruction qui la procure. C'est un peu cette espèce de relation de pouvoir dans laquelle elle est, justement, c'est que c'est le malheur qu'elle trouve dans cette relation-là, je pense qu'elle recherchait aussi, donc cette espèce de elle cherche une fin heureuse, mais en même temps, la raison de son l'existence de leur relation de couple, c'est aussi le malheur qui la procure. Donc, si on, dans leur chambre, ils écoutent Leonard Cohen, il y a beaucoup de nostalgie, il y a une atmosphère de mort autour de ce couple-là, donc c'est la raison pour laquelle elle trouve, c'est un peu ce rejet-là de la vie ou des relations de couple heureuses. Donc, c'est un peu le malheur dans lequel elle s'enfonce avec son roi.
Mais est-elle consciente de la date de préemption de sa relation? Parce que vous dites, le temps d'un orgasme, je règne et le roi devient mon empire. Il y a quand même quelque chose de pathétique de réduire la relation, je le dis crûment, à de la baise.
Ben oui, totalement. C'est justement la relation de pouvoir dans laquelle elle est entremêlée, qu'elle va chercher. Le seul moment dans lequel elle se sent un peu en contrôle, c'est au moment de l'acte sexuel, parce que sinon, le reste du temps, son roi lui glisse entre les doigts, elle n'a aucun contrôle, elle n'a aucune emprise, même malgré ce qu'elle essaie de se faire croire, ou en tout cas ce qu'elle essaie d'avoir comme relation, mais elle n'a pas l'emprise qu'elle souhaiterait avoir sur cette relation-là. Donc, mais c'est peut-être aussi ça qu'elle va chercher. Donc, c'est super complexe pour comme genre de relation, mais l'idée, c'est vraiment de... C'est cette relation-là de pouvoir qu'elle va chercher. Je pense que justement l'emprise qu'elle a pas, elle recherchait ce sentiment-là aussi de se perdre un peu là-dedans. Donc c'est toute la complexité de la relation.
Vous citez également Roland Barthes. En amour, il y a un migrateur et un sédentaire. Est-ce que c'est une définition qui vous va,
oui,
qui vous convient?
Ça fonctionnait beaucoup. C'est un peu pour ça que la narratrice sort jamais de sa chambre. Roland Barthes avait beaucoup inspiré ça. C'était cette idée que l'amoureux qui est dans une position d'attente constante, en perpétuelle attente, donc immobile, alors que l'autre, l'être aimé, est en perpétuelle disparition ou immobilité autour. Donc le roi est toujours disparu. Il est souvent comparé à un espèce de le navire en mer, donc il est partout autour d'elle, alors qu'elle est prise dans cette immobilité-là, dans sa chambre. Donc, Roland Barthes fonctionnait bien pour exprimer cette espèce de relation-là de pouvoir super déséquilibré entre les deux.
À la fin, c'est toujours la même qui souffre ou qui meurt. Vous citez l'histoire de Marie Pinchot-Meyer, l'ex-maîtresse de John F. Kennedy, qui a été assassinée peu de temps après lui, d'ailleurs. Elle est quantité négligeable, comme toutes les autres femmes de la vie du président. Et évidemment, on justifie ses agissements au président parce qu'il avait un père, finalement, qui lui aussi était incapable d'aimer. Donc forcément, il y a une logique là-dedans. Vous en concluez, je cite, « On est toute la pute et la reine de quelqu'un ». Ça m'a ramené aussi à quelque chose que vous rappeliez à plus tôt. C'est une situation aussi qui je trouve intéressante. C'est les filles gardent les mots gentils des hommes mariés comme des cailloux dans le creux de la main pour leur lancer au visage. C'est juste de la provocation ironique ou vous y croyez vraiment?
Ben, en fait, ben là, c'est pas moi comme personne, mais en fait, la narratrice, elle essaie de dire, puis c'est un peu ça. Et tout le long, elle essaie un peu de provoquer des paroles de son roi. Donc, tout ce qu'elle souhaite, c'est rendre leur relation tangible, puis vraiment réelle. Puis lui, il lui donne aucune attache dans la vie réelle pour lui dire qu'il existe complètement. Elle attend qu'il lui dise qu'il aime, elle attend quelque chose de réel pour les sortir un peu de cette espèce d'entre-deux-là où tout le long, il y a des réflexions qu'elle a en elle. Est-ce que c'est une relation d'amour? Est-ce que c'est une relation uniquement de cul? Donc, elle attend une confirmation de son roi qui lui donne jamais cette espèce de confirmation-là. Donc, c'est une réflexion au fond qui revient sur leur relation. Elle ne sait pas si leur relation sera victorieuse, comme elle ne sait pas si elle est tangible, parce que pour elle, elle n'existe pas tant qu'elle est dans sa chambre, tant qu'elle n'est pas aux yeux de tout le monde. Donc, c'est un peu ce rapport-là, là, sa relation lui semble encore irréelle puis inachevée. Donc, elle attend un peu sa confirmation à lui.
Mm-hmm. Pour finir, réinventer notre idée de l'intimité, écrire sur le goût de certains ou certaines pour les rêves infaisables. Mais pour les faux amants, de quoi a l'air ce rêve? On se demande sinon celui de peut-être finir un jour en couple. Vous précisez, vous nous donnez une piste finalement, peut-être pas en conclusion, mais je vous cite, « En amour, il n'est pas nécessaire d'aller quelque part. J'attends le prochain désordre. » C'est un peu votre « no future » à vous, attendre l'homme révolutionnaire dans ce premier roman?
Oui, en fait, l'idée, c'est de la laisser en perpétuelle de l'attente, même à la fin. Je pense que pour elle aussi, c'est nécessaire qu'il n'y ait pas une fin tangible. Clairement, on lit ce roman-là, puis on ne s'attend pas à ce qu'elle termine avec son roi, qu'il y ait une relation, donc, ça finisse qu'il soit heureux, puis qu'il y ait beaucoup d'enfants. Donc, c'est pas ça le genre de sur l'amour qu'elle fait dès le début. Mais elle aussi, c'est pas ça qu'elle recherche, en fait, je crois. Donc, au fond d'elle, elle sait que c'est pas ça que la relation va devenir, c'est pas son dénouement, elle recherche quand même ça, mais c'est vraiment de rester dans cette entre-deux-là où, même si elle est en quête de quelque chose, elle sait que ce quelque chose-là est impossible, donc c'est vraiment cet équilibre-là qu'elle essaie de maintenir dans sa relation, de demeurer dans cet entre-deux-là.
Mm-hmm. Voilà. L'amour se fait attendre, c'est bien connu. Il n'empêche que ça décrisse quelqu'un comme jamais, comme réveillé des ardeurs de révolutionnaire, même si cela agace les bonnes mœurs. Un premier roman détonnant à découvrir, Daddy Issues, par Elisabeth Lemay, paru en 2022 aux éditions Boréal. Merci Elisabeth d'être passée par Mission Encre Noire. Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 36, le chapitre 395. J'ai eu le loisir de recevoir en première partie d'émission Sophie Bienvenue pour nous présenter J'étais un héros, paru en 2022 aux éditions Le Cheval Doux, ainsi qu'en deuxième partie d'émission Elisabeth Lemay est venue nous présenter Daddy Issues, paru en 2022 aux éditions Boréal. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là.
Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
Jorjão! Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso era bom.
Não, poderia servir aqui no centro.
Ô, Ciro, tira a mão do meu bolo. Agora um arame.